Eh bien, à Madagascar, c'était un processus qui était en cours depuis un certain temps. On se demandait quand est-ce que ça allait venir. Mais si vous voulez, c'est un processus qui est quelquefois un petit peu long, mais cela marque quand même une décision du pays d'aller vers l'abolition. Ça, c'est important. La République du Congo, je n'avais pas suivi des progrès de la République du Congo, je dois le dire, et j'ai trouvé que c'était une très bonne surprise dans leur nouvelle constitution.
Est-ce que, au-delà des mécanismes politiques qui se mettent en place dans un tel processus, est-ce que l'abolition, ça témoigne aussi d'un changement dans la société, dans les mentalités ?
Oui, dans la mentalité, sans doute, parce que en fait, on se rend compte que la peine de mort n'a pas de caractère dissuasif. Quand il y a une vraie réflexion sur l'utilité de la peine de mort, on se rend compte que ça ne change absolument rien, et on le voit particulièrement en cas de terrorisme, il peut y avoir une réflexion qui mène effectivement les pays vers l'abolition.
Il y a un pays néanmoins où vous soulignez la situation dans votre rapport, le Tchad qui fait un peu exception, puisque ces 10 ou voire 12 dernières années, il n'y a pas eu d'exécution.
Voilà, 12 dernières années, voilà. Et donc on pouvait imaginer que le Tchad était abolitionniste en pratique, mais néanmoins là, c'est vraiment un retour en arrière, d'autant plus que le Tchad, en 2014, avait envisagé l'abolition de la peine de mort. Et là, on a vraiment été très surpris. C'est un signe que, si vous voulez, le Nigeria est frappé aussi par les attaques de Boko Haram et le Nigeria ne réagit pas comme le Tchad. Amnesty n'a pas d'explication. Franchement, on ne peut qu'être vraiment désolé de ce retour en arrière désastreux, et on espère que ça ne va pas continuer parce que, bon, ils ont condamné à mort 10 autres personnes. Et donc, nous espérons qu'ils s'en tiendront là.